Nous parcourons le livre de Job après avoir vu que Job était un livre difficile mais utile. Après nous être posé la question, Dieu fait-il bien son Job? Vous vous rappelez trois informations capitales: la toute-puissance du Seigneur, l'influence du diable, l'innocence de Job dont il faut tenir compte pour comprendre la suite. J'espère que vous avez vu combien il était important de comprendre l'innocence de Job à la lumière du survol des chapitres 4 à 27 qu'on a fait hier et aujourd'hui. Un chapitre, un chef-d'œuvre poétique. Peut-être l'un des summums poétiques de toute la Bible. Je veux que tout me soit expliqué ou rien. Et la raison est impuissante devant ce cri du cœur. L'esprit éveillé par cette exigence cherche et ne trouve que contradiction et déraisonnement. Ce que je ne comprends pas est sans raison. Pourquoi dire une seule fois, cela est clair et tout serait sauvé. Qui est selon vous l'auteur de cette citation? Quelqu'un d'eux dont j'ai déjà parlé, c'est pas Woody Allen, ça aurait pu, c'est Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe. Pourquoi dire une seule fois, cela est clair et tout serait sauvé. Ce que je ne comprends pas est sans raison. Pouvons-nous toujours tout expliquer? Pouvons-nous toujours tout comprendre? Pouvez-vous toujours dire cela est clair? Et quand vous ne comprenez pas tout ce qui se passe dans le monde, un monde déréglé, déchu, dans lequel nous vivons, quand vous ne comprenez pas tout ce que Dieu fait ou ne fait pas dans la vie, Dieu doit-il toujours tout nous expliquer? Devons-nous toujours tout comprendre? Et même si Dieu nous expliquait tout, écoutez bien, même si Dieu nous expliquait tout, serions-nous seulement capables de comprendre ce qu'il nous dit? Serions-nous capables de tout comprendre dans la vie et dans le monde? Tout comprendre, il me semble que c'est la définition que nous pourrions peut-être donner à la sagesse dans ce chapitre de Job 28 qui vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On ne sait pas très bien ce que nous devons penser de Job 28, d'accord? Si vous remarquez l'introduction du chapitre, on ne sait pas très bien qui parle dans ce chapitre. L'auteur du livre de Job est vraiment très précis. Depuis le début et jusqu'à la fin, il va nous préciser à chaque fois qui parle à quasiment chaque instant du livre, sauf au chapitre 28. Qui parle dans ce chapitre? La question n'est pas facile. En tout cas, ce chapitre parle de sagesse, comme vous l'avez peut-être remarqué si vous avez lu le livre de Job. Et la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est qu'est-ce que la sagesse vient faire là? Pourquoi, à ce moment-là du livre de Job, nous avons un chapitre consacré à la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse vient faire là? Pour essayer de comprendre la sagesse, il me semble utile de dire que c'est un peu comme la question que posait Michel Chevalet il y a quelques années. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Michel Chevalet? Superbe, ceux de ma génération. 1977. C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est superbe d'être né en 77, l'année du punk, l'année des... Bref. Michel Chevalet, pour les plus jeunes parmi vous, Michel Chevalet était un journaliste scientifique sur TF1 qui, je me suis renseigné, travaille sur ITL aujourd'hui. Il avait l'habitude de poser une question qui a été reprise parodiquement dans la presse. Cette question, c'est très simple. Comment ça marche? Il vous expliquait le fonctionnement de la fusée Ariane, des planètes, des étoiles. Il avait une question pour nous aider à comprendre un petit peu comment marchent les choses. Comment ça marche? Quels sont les liens de cause à effet qui nous permettent de comprendre un phénomène? Et dans Job, suivez-moi, quels sont les liens de cause à effet qui nous permettent de comprendre, de tout comprendre, et notamment le plan de Dieu selon lequel il gère l'ordre de ce monde. De comprendre le plan de Dieu selon lequel il fait son job. Comment comprendre ce plan? Comment ça marche? Et notamment le problème de la souffrance injuste qui caractérise parfois le monde déchu, déréglé dans lequel nous vivons. Ça va jusqu'ici, comment ça marche? C'est un peu la définition que nous pourrions donner de la sagesse. Rappelez-vous, pour nous rafraîchir la mémoire, Job est un homme intègre et droit, innocent, qui n'a strictement rien fait pour mériter les souffrances qui s'abattent sur lui, mais dans son malheur, Job a des amis qui viennent le consoler. Vous vous rappelez de leurs prénoms? Eliphaz, Sophar, Bildad. Mais vous vous rappelez, le comportement de ses amis évolue en fonction des réactions de Job. Vous vous rappelez de la solidarité à l'encouragement, de l'encouragement à l'avertissement. Attention, Job, tu commences à parler comme un impie. Est-ce que tu sais le sort qui est réservé à ceux qui parlent comme ça? Et finalement, de l'avertissement à l'accusation ouverte. Job, si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Le principe de rétribution qui ne s'applique pas nécessairement dans la vie présente, mais qui s'appliquera le jour du jugement, le jour où Dieu reviendra régler les choses du monde. Okay ? Et à partir du troisième cycle de discours, regardez bien, un phénomène très très étrange a lieu. Nous assistons à un phénomène très étrange et je serais vraiment curieux de savoir si vous avez remarqué ce phénomène. À partir du troisième cycle de discours, du chapitre 22, le discours d'Eliphaz, par exemple, est beaucoup plus court que ses deux précédents. Le premier discours d'Eliphaz fait deux chapitres. Le discours d'Eliphaz, dans le dernier cycle de discours, fait combien de chapitres? Un seul, chapitre 22. Celui de Bildad, d'accord, au chapitre 25, est extrêmement bref. Vous savez combien il y a de versets au chapitre 25? 6 versets qui, de surcroît, ne font que nous rappeler des banalités absolues. Ok? Quant au discours de Tsophar, où est le discours de Tsophar? Cherchez le discours de Tsophar. Où est le discours de Tsophar? Il n'y a pas de discours de Tsophar. Où est Tsophar? Il est porté disparu dans le livre. Le discours de Tsophar a disparu. On n'a plus de discours de Tsophar. Et la question que je pose, écoutez bien, comment comprendre ce phénomène? Comment comprendre? Pourquoi les discours des amis de Job diminuent-ils comme une peau de chagrin pour finir, pardonnez-moi l'expression mais ça rime, en eau de boudin? Leurs discours finissent vraiment en eau de boudin. Le discours d'Eliphaz ne fait plus qu'un chapitre, celui de Bildad ne fait plus que 6 versets et ne contient que des banalités absolues. Quant à Tsophar, c'est ça? Disparu. On n'entend plus du tout parler de Tsophar. Comment comprendre ce phénomène? J'ai ma petite idée sur la question et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Voilà l'hypothèse que je lance. Ce silence progressif des amis de Job, qui n'ont finalement plus rien à dire, ce silence progressif, ne serait-il pas finalement un aveu d'impuissance? Ce silence des hommes, des amis de Job en l'occurrence, ne serait-il pas révélateur de l'échec de la sagesse humaine pour comprendre la sagesse de Dieu? Est-ce que vous voyez la pertinence de ce chapitre 28 consacré à la sagesse dans l'unité du livre de Job? Je crois que ce chapitre est tout à fait à sa place, que c'est très pertinent, au cœur d'un débat passionné et passionnant, où les amis de Job ont épuisé tous leurs arguments. Ils n'ont plus rien à dire pour répondre à Job. Job est innocent, ils n'ont plus rien à dire. Au cœur de ce débat passionné, l'auteur de Job 28, il se peut que ce soit l'auteur du livre, il se peut que ce soit Job, introduit, comment dire, un petit peu de finesse dans un monde de brutes. C'est un peu le calme après la tempête. C'est un peu une interlude méditative, contemplative, pour dire que finalement les hommes en général, et les amis de Job en particulier, malgré toute leur science, parce qu'ils en disent des choses, vous vous rappelez, ils ont beaucoup de choses à dire, les amis de Job. Les hommes, malgré toute leur science, toute leur connaissance, tout ce qu'ils peuvent dire, toutes les explications rationnelles pour expliquer la souffrance injuste dans ce monde, ces explications, en fait, sont vaines. Ces hommes sont strictement incapables de trouver la sagesse, de tout comprendre, de comprendre comment ça marche, et notamment de comprendre le problème de la souffrance injuste. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire, d'accord? Les amis de Job sont à court d'arguments. Est-ce que cela ne serait pas révélateur de l'échec de la sagesse humaine pour comprendre la sagesse de Dieu, pour comprendre comment ça marche, pour comprendre le problème de la souffrance injuste? Et ce que je vous propose de découvrir ce matin tient en une phrase. Notez-la parce qu'elle est importante. La sagesse ne se trouve qu'en Dieu. La sagesse ne se trouve qu'en Dieu. Et c'est ce que je vous propose de découvrir en trois temps. Premièrement, la science de l'homme, des versets 1 à 11. Deuxièmement, l'inaccessibilité, c'est pas facile à dire, mais je l'ai dit, de la sagesse, des versets 12 à 19. Troisièmement, l'omniscience de Dieu, des versets 20 à 28. Tout cela se trouve aux pages 18 et 19 de vos livrets. Premièrement donc, la science de l'homme. Lisons ensemble Job chapitre 28, versets 1 à 11. Job 28, 1 à 11. L'argent sort de quelque part et il existe un endroit pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et en coule le bronze à partir d'une pierre. L'homme met fin aux ténèbres. Il explore jusqu'à l'extrême limite les pierres cachées dans l'obscurité, dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des endroits habités, là où les pieds ne sont d'aucune aide. Il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre qui fournit le pain est profondément bouleversée comme par un feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poussière d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du faucon ne peut l'apercevoir. Les plus fiers des animaux n'y ont jamais marché. Le lion n'y est jamais passé. L'homme porte sa main sur la roche. Il bouleverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des galeries dans les rochers et son œil ne peut contempler tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement de l'eau et il amène à la lumière ce qui est caché. Qu'est-ce que le... l'auteur est en train de nous dire, c'est pas facile à comprendre, c'est très poétique, n'est-ce pas? C'est très poétique. Je pense que dans ces versets, l'auteur du livre de Job est en train de nous dire que l'homme est un peu comme Léonard de Vinci, que l'on ne présente plus. Un ingénieur qui a fait une bonne école d'ingé, pour le coup, polyvalent, qui sait faire beaucoup, beaucoup de choses techniques. Extraire de l'argent, et affiner de l'or, verset 1. Extraire le fer de la poussière, fondre le bronze pour en tirer le cuivre, verset 2. Explorer des mines pour chercher des pierres cachées, verset 3. Creuser un puits loin, dans des endroits inaccessibles. J'ouvre une petite parenthèse pour attirer votre attention sur l'extrême difficulté qui consiste à traduire ce verset. Vous vous rappelez, on a dit que Job était un livre difficile. Voilà un exemple très concret de la difficulté du livre de Job. Je vous livre la traduction littérale du verset 4. On en reparle après, ok? Verset 4. Écoutez bien. On a coupé un torrent d'auprès du résident. Les oubliés du pied sont suspendus. De l'homme, ils sont balancés. Bon courage. Fin de la parenthèse. L'homme est capable de faire vraiment beaucoup de choses. Arrêter l'écoulement de l'eau et amener à la lumière ce qui est caché, verset 11. C'est un Léonard de Vinci en puissance. Mais c'est aussi un Indiana Jones. Ou un Alan Quaterman, si vous préférez. Un explorateur intrépide, capable de trouver les métaux et les pierres les plus précieux. Regardez le verset 1 encore. De l'or, de l'argent, du fer et du bronze, verset 2, du saphir et de la poussière d'or, verset 6, du granit. Vous voyez, dans ces versets, l'auteur nous amène vraiment en voyage au centre de la terre, dans un endroit qu'aucun oiseau n'a repéré, ni l'oiseau de proie, ni l'épervier, malgré leur vue très perçante. Dans des lieux où aucun animal n'a jamais osé s'aventurer, et même pas Aslan. Il est là, Aslan, vous l'avez vu? Le plus courageux des animaux. Verset 7, le plus courageux des lions. Même pas Aslan. Chronique de Narnia. Comme dans Germinal. Germinal est un roman d'Émile Zola qui a été adapté à l'écran par Claude Berry, avec Gérard Depardieu, Miu Miu, Jean Carmé, qui commence à vomir du charbon, bref, parce qu'il travaille dans la mine. C'est vraiment un film super, Renaud notamment, dans un superbe rôle. Comme dans Germinal, l'auteur est en fait en train de décrire le monde des mineurs. Un monde où les hommes travaillent dans des conditions terribles, difficiles, parfois au péril de leur vie. Regardez le verset 3, dans l'obscurité et l'ombre de la mort. Probablement, vous savez, à la lumière d'une lampe ou d'une torche pour pouvoir s'éclairer. Dans le vide, suspendus comme des acrobates. À une corde, c'est une traduction possible du verset 4 qui met en valeur un petit peu ce côté de suspension au-dessus du vide. Seul, loin des humains, dans la solitude. Verset 4. Vous voyez comment dans ces versets, l'auteur est en train de nous dire que l'homme est capable de faire beaucoup de choses très techniques et de trouver beaucoup de choses très très précieuses. Et ce, dans des conditions très difficiles. Mais il y a une chose qu'il ne sait pas faire. Il y a une chose qu'il ne sait pas du tout faire. Une chose qu'il est incapable de trouver. Une chose qu'il est incapable de comprendre malgré toute sa science. Et cette chose, c'est la sagesse. Regardez le verset 12. le verset 12 qui est la question autour de laquelle est construit tout le poème. Mais la sagesse, verset 12, où peut-on la trouver ? Où est l'emplacement de l'intelligence ? Et ce qui nous amène à notre second point. Premièrement, la science de l'homme qui est capable de faire beaucoup de choses. Deuxièmement, l'inaccessibilité de la sagesse. Des versets 12 à 19 que je vous invite à lire. Mais la sagesse, où peut-on la trouver ? Où est l'emplacement de l'intelligence ? L'homme ne connaît pas sa valeur. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. Et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle n'est pas donnée en échange d'or pur. On ne l'achète pas avec de l'argent. L'or d'Ophir ne fait pas le foie. Le foie, le poids. Contre elle, ni le précieux onyx ou le saphir. On ne peut la comparer ni à l'or, ni au verre. On ne peut l'échanger contre un vase en or fin. Oubliez le corail et le cristal. Posséder la sagesse, c'est avoir plus que des perles. La topaze d'Éthiopie ne peut être comparée à elle et l'or pur ne fait pas le poids contre elle. La sagesse, c'est-à-dire la capacité à tout comprendre. Michel Chevalet, comment ça marche ? Autrement dit, le plan de Dieu selon lequel il gère l'ordre de ce monde est inaccessible, complètement incompréhensible. Personne ne sait où elle se trouve, cette sagesse. Elle échappe à tout le monde. Aucune partie de la création ne sait où aller. Regardez le verset 13 encore. Ni l'homme qui ne connaît pas sa valeur, ni l'abîme ou l'océan primitif, ni la mer, verset 14. En fait, personne ne peut l'acquérir. Elle ne s'échange contre rien, pas même contre l'or ou avec de l'argent, verset 15-17. Elle ne se compare à rien, ni à l'or d'Ophir, Ophir c'est une région très difficile à identifier, on n'est pas trop sûr, ni à l'onyx, ni au saphir, ni au verre, ni au topaz d'Éthiopie. Elle fait oublier le corail et le cristal, elle les fait oublier, la posséder c'est avoir plus que des perles. Verset 18. Bref, vous voyez comment, dans un deuxième temps, l'auteur est en train de dire que la sagesse, finalement, est inaccessible, et ce, malgré la science de l'homme. L'homme, malgré toute sa science, toutes ses connaissances, tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il sait dire, ne peut ni la découvrir, ni l'acquérir. Il n'est pas capable de tout comprendre, de percer tous les mystères de la vie, et notamment celui de la souffrance injuste. Mais où est donc la sagesse ? Où est donc l'emplacement de l'intelligence ? Vous avez vu, la question est reposée au verset 20. C'est vraiment la question autour de laquelle est construit tout le poème. La question qui se pose, finalement, comment ? Comment l'homme peut-il donc accéder à la sagesse ? La science de l'homme, d'accord, mais l'inaccessibilité de la sagesse. L'homme est incapable de l'acquérir, malgré tout ce qu'il sait et tout ce qu'il peut trouver. Question, comment peut-il la trouver ? Je crois que la réponse se trouve dans la suite et la fin du texte, des versets 20 à 28, d'omniscience de Dieu. Je propose de lire ensemble cette dernière partie. D'où vient donc la sagesse ? Où est l'emplacement de l'intelligence ? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant, elle est cachée aux oiseaux. Le gouffre de perdition et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à elle, c'est lui qui connaît son emplacement. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous le ciel. Quand il a déterminé le poids du vent et fixé la mesure de l'eau, quand il a donné des règles à la pluie et tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examinée. Puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur. Voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Pas évident, hein ? Vraiment pas évident. La sagesse, personne ne peut la trouver. Le gouffre de perdition, ça dépend des traductions, le séjour des morts et la mort en ont à peine entendu parler, c'est ce que dit le verset 22. En fait, personne ne sait, sauf un. Le seul qui sait où se trouve la sagesse, c'est Dieu. La sagesse ne se trouve quand lui seul connaît l'accès, la voie, le chemin qui mène à la sagesse. Regardez encore le verset 23. C'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à elle. C'est clair, non ? C'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à elle. Pourquoi ? Là, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur la logique extraordinaire, inspirée et implacable de ces derniers versets. Écoutez bien. Personne ne sait où se trouve la sagesse. On est tous d'accord. Versets 12 à 20. Jusque-là, tout va bien? Vous me suivez? Ok. En fait, seul Dieu sait. On l'a lu verset 23. La question qui se pose, pourquoi? Pourquoi est-il le seul à savoir? En fait, la réponse est dans le verset 24. Parce qu'il voit tout. Il voit tout. Parce qu'il a une vision panoramique du monde. Et pourquoi voit-il tout? La réponse se trouve au verset 25 et 26. Pourquoi? Vous l'avez vu? Parce qu'il a tout créé. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui a créé le poids du vent et la mesure de l'eau. C'est lui qui a tout ordonné. C'est lui qui a fixé des règles, une loi pour la pluie et un chemin pour l'éclair et le tonnerre. Verset 26. C'est lui qui, au verset 26, a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examinée. Deuxième parenthèse, pour attirer encore une fois votre attention sur la difficulté de traduire ce verset, il y a une succession de verbes dont un est un mystère absolu. C'est le verbe « kiper ». Kiper, gagne. Un verbe tellement difficile, kiper, qu'on s'y perd. C'est vraiment difficile. C'est vraiment un verbe qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans ce contexte. Et je serais curieux de savoir comment vos versions le traduisent. Je suis persuadé qu'il serait traduit de manière très différente. Mais je pense que ce verset 27 est simplement en train de nous dire que Dieu a vu la sagesse au moment de la création. Quand il a créé le monde. Quand il a établi, déterminé, fixé les lois de la nature. Est-ce que vous avez compris la logique de ce texte? D'accord, personne ne sait où se trouve la sagesse. Seul Dieu sait, verset 23. Pourquoi est-il le seul à savoir? Parce qu'il voit tout, verset 24. Pourquoi est-il le seul à tout voir? Réponse, parce qu'il a tout créé, absolument. Vous voyez la logique? C'est génial, non? Nous voilà donc sur la voie de la sagesse. Nous ne savons pas où elle est exactement. Nous ne pouvons pas tout comprendre dans la vie. Mais nous savons vers qui tourner nos regards pour la trouver. Vers celui qui sait où elle est, Dieu. Vers celui qui l'a vue parce qu'il voit tout. Vers celui qui voit tout. Parce qu'il a tout créé, vers le seul finalement, l'unique, qui peut nous mettre sur la voie de la sagesse. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qu'il va faire dans le dernier verset. Un verset extraordinaire, d'une simplicité biblique, mais extraordinaire. Regardez le verset 28 encore une fois. « Puis Dieu dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. » S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. J'ai sué sur ce verset, j'ai transpiré sur ce verset. J'ai pas dormi à cause de ce verset. Qu'est-ce que ce verset vient faire là, à la fin du poème? Quel rapport entre tout ce que nous avons dit et ce verset 28? Quel rapport? Pour essayer de comprendre, je pense que l'homme, malgré toute sa science, malgré toutes ses connaissances, n'est pas capable de trouver la sagesse, de tout comprendre. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a une chose finalement, il y a une chose qu'il peut faire. Ouais, il y a une chose qui est accessible. Il y a une chose qui est à sa portée, qu'il peut faire. Pourquoi? Parce qu'elle lui a été révélée. Craindre Dieu sur la base de la météo. Craindre Dieu sur la base des phénomènes mystérieux de sa création, les versets qui précèdent, tels que les éclairs notamment. Quel phénomène mystérieux qu'un éclair. On en parlera demain avec Eliou, qui est le monsieur météo du livre de Job. Mais quel mystère qu'un éclair. Craindre Dieu sur la base de sa création mystérieuse et s'éloigner du mal. Est-ce que vous comprenez ce que l'auteur du livre de Job est en train de nous dire là? L'homme, les hommes que nous sommes ne peuvent peut-être pas tout comprendre dans la vie, c'est vrai. Mais ils peuvent au moins comprendre cette leçon d'humilité, cette grande leçon d'humilité, au verset 28. La sagesse ne se trouve qu'en Dieu et n'est finalement accessible que sous la forme de la piété, de la crainte du Seigneur. Et si cette conception est juste, si cette interprétation est juste, l'auteur de Job 28 opposerait peut-être. J'essaie de vraiment rester prudent, mais opposerait peut-être deux types de sagesse. Deux types de sagesse, deux conceptions différentes de la sagesse. Dans la première partie, ou même dans les 27 premiers versets, la sagesse avec un grand S, la sagesse par excellence, quelque chose d'inaccessible, en tant que capacité à tout comprendre, d'accord? La sagesse en général, en d'autres termes. Et dans ce verset 28, la sagesse beaucoup plus modeste, accessible en tant que piété, sous la forme de la crainte du Seigneur. Et ce qui me fait dire ça, c'est un petit détail, mais parfois dans la vie, les détails ont leur importance, c'est que dans les 27 premiers versets, le mot « sagesse » dans l'original est précédé de l'article « la sagesse », vous voyez, avec un grand S, « arorma », la sagesse, inaccessible. Et dans le verset 28, il n'y a pas d'article, « sagesse », tout simplement. Ce qui me fait dire que l'auteur pourrait peut-être, ici, être en train de distinguer deux types de sagesse. La sagesse avec un grand S, inaccessible. Comment ça marche, on ne sait pas. La sagesse beaucoup plus modeste, accessible, sous la forme de la crainte du Seigneur. J'aimerais conclure en vous racontant une histoire, celle d'un pasteur qui était à l'époque aumônier, me semble-t-il. Certains d'entre vous le connaissent, ce pasteur. Il est australien. Il s'appelle Graham Goldsworthy, il est l'auteur d'un très bon livre que nous utilisons au niveau 2, un livre de théologie biblique. Et un jour, Graham Goldsworthy, que Libby ou Daniel ont peut-être rencontré personnellement, est un jour de passage dans un centre d'accueil pour les enfants des ghettos à New York. Et les enfants, comme beaucoup d'enfants, et en fait comme beaucoup de monde, ne comprennent pas toujours ce que Dieu fait dans la vie et ce qu'il ne fait pas. Alors il bombarde Graham de questions, mais... dans sa diplomatie et dans sa pertinence, le pasteur Graham leur pose une question aux enfants. Et la question qu'il leur pose, c'est celle-ci. Les enfants, qu'est-ce que cela voudrait dire si nous pouvions toujours tout comprendre? Toujours tout comprendre de ce que Dieu fait ou ne fait pas. Et là, ils réfléchissent, putain, t'as un petit garçon de 7 ans qui lève la main. Moi, monsieur, demain. Et vous savez ce qu'il répond, le gosse? On serait Dieu. Il a tout compris. Il a appris. Il a tout compris. En plus, j'ai même pas fri, mais le jour où je vous ai dit ça, ma femme m'a dit qu'on nous avait appelé pour nous proposer fri, quoi. Véridique. 10:44. On n'a pas fri. On n'a pas tout compris. Mais on est quand même content. On serait Dieu si on pouvait toujours tout comprendre dans la vie. Si, comme Michel Chevalier, on pouvait savoir comment ça marche. Tout le temps, on serait Dieu. Or, nous ne sommes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Nous ne sommes que des créatures dont les capacités et les connaissances sont limitées et dépendent de ce que le Créateur a jugé bon de nous révéler. Comment réagissez-vous? Comment est-ce que je réagis quand je ne comprends pas tout ce qui m'arrive dans la vie? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Quand nous ne comprenons pas tout ce que Dieu fait ou ne fait pas, comment réagissez-vous? Quand on rate un examen important, quand on redouble une année importante, quand on tombe malade, quand il ou elle ne nous aime pas, c'est pas lui, c'est pas elle. Quand on perd un proche, quand on perd un ami, quand on perd un frère, une sœur, un père, une mère, comment réagissez-vous? Quelle attitude adopter face au mystère de la vie et au problème de la souffrance injuste, qui caractérise le monde déchu dans lequel nous vivons? Comment réagissez-vous? Je crois qu'il y a deux attitudes possibles. Deux attitudes, deux réactions qui peuvent être provoquées par toutes ces circonstances. La première réaction, malheureusement, c'est la rébellion. La rébellion contre Dieu et la remise en question de sa justice, de son amour et de son existence. Et la deuxième attitude qui est possible, c'est l'humiliation. L'humiliation face à sa grandeur. Sa grandeur de créateur, face à son caractère incompréhensible à la lumière de sa création. Humiliation face à mes limites, à mes capacités, à ne pas tout comprendre. Et vous voyez, je pense que c'est cette humble résolution que l'auteur de Job, dans le chapitre 28, nous invite à prendre. Ne pas tout comprendre, ne pas chercher à tout comprendre, mais craindre celui qui a tout créé. Vous voyez la nuance? Ne pas tout comprendre, mais craindre celui qui a tout créé et nous détourner de ce qui lui déplaît, de ce qui ne correspond pas à sa volonté morale qu'il nous a clairement révélée dans sa parole. Le craindre et se détourner du mal. De quoi avez-vous le plus besoin dans la vie? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? De quoi ai-je le plus besoin? De réponse à nos questions? De savoir comment ça marche? Comme Michel Chevalier nous le demandait? Ou de savoir comment honorer celui qui fait marcher le monde. De savoir comment le monde marche, ou de savoir comment honorer celui qui fait marcher le monde. De comprendre tous les mystères de la création, ou de comprendre la volonté du Créateur. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie ? et dans les moments où tout va mal. Voilà vraiment l'humble résolution que l'auteur de Job 28 nous invite à prendre. Ne pas chercher la sagesse pour la sagesse, qui est de toute façon inaccessible en tant que capacité à tout comprendre. Ne pas chercher la sagesse pour la sagesse, mais chercher Dieu. Chercher Dieu qui a révélé sa sagesse dans la création, et plus particulièrement dans Job 28, et plus particulièrement dans Job 28, et de manière suprême, absolument suprême, dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus. Lui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est pas beau ça ? Colossiens chapitre 2, verset 3. Lui qui nous aime et qui a accepté d'être crucifié à notre place pour le pardon de nos péchés, selon la sagesse de Dieu. C'était la sagesse de Dieu, c'est ce que dit un Corinthien. Lui en qui je vous encourage vraiment à placer votre confiance, notamment quand tout va mal, quand vous ne comprenez pas tout ce qui vous arrive. Lui en qui je vous invite à trouver votre réconfort suprême en toutes circonstances. Lui en qui je vous invite en vous, à vous confier et à prier. Maintenant, prions. Notre Dieu, notre Père, l'homme, les hommes que nous sommes sont capables, il est vrai, de faire et de trouver beaucoup de choses dans la vie. Mais il y en a une qui est introuvable, absolument inaccessible, la sagesse avec un grand S, la capacité à tout comprendre, à comprendre la façon dont tu gères l'ordre de ce monde, la capacité à comprendre comment ça marche. Aide-nous, notre bon Père Céleste, à ne pas toujours vouloir chercher à tout comprendre, à tout prix, à ne pas chercher la sagesse pour la sagesse, mais à te chercher toi, le Dieu juste, sage et omniscient qui sait tout, à prendre cette humble résolution qui consiste à te craindre, à éprouver à ton égard une crainte respectueuse, à t'obéir, à te faire confiance, à se soumettre à ta volonté, à nous détourner du mal, car voilà finalement en quoi consiste la sagesse qui est accessible en toi, qui ne se trouve qu'en toi. C'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous prions. Amen.